Lola Montes, comtesse de Lansfeld, par Jules Chancel. En 1820, naissait dans un village d'Écosse une petite fille qui avait pour père un officier de l'armée des Indes et pour mère une jolie créole. Ce croisement fut heureux au point de vue physique, car l'enfant, dès son plus jeune âge, s'annonça comme devant être parfaitement belle, d'une beauté à la fois raffinée et un peu sauvage, qui ne pouvait laisser personne indifférent. Mais sauvage également était son caractère, et à la pension de Bath, où l'avaient internée ses parents, elle se rendit bientôt insupportable par sa coquetterie et la fougue de son tempérament, incapable de subir la moindre autorité. À 15 ans d'ailleurs, elle mettait fin d'elle-même à ses études en sautant de la fenêtre de sa chambre pour aller rejoindre un fiancé, officier lui aussi, comme son père, et qui allait rejoindre son régiment à Calcutta. Il l'épousa avant de s'embarquer, et le jeune ménage partit pour les Indes. Calcutta n'eut pas l'heure de plaire à la nouvelle mariée, pas plus que son mari d'ailleurs, puisqu'après quelques mois de ménage, elle s'évada de la vie conjugale comme elle s'était évadée de sa pension et prit passage sur un navire qui devait la ramener en France. Durant la traversée, elle se prend de passion pour l'Espagne et quittant son nom anglais, elle se baptisa Lola Montes elle-même et prit les allures castillanes ou mexicaines qui convenaient d'ailleurs à sa chevelure d'ébène et à ses grands yeux de velours. Après un court séjour à Madrid, elle se dirigea sur Paris. Dans ce Paris romantique et un peu provincial du bon roi Louis-Philippe, elle ne tarda pas à faire parler d'elle. Son ambition était de devenir danseuse et elle entra dans une école de la rue Lepelletier pour apprendre ce métier. Malheureusement, elle fit en même temps la connaissance du grand musicien Liszt qu'elle prétendait épouser, mais sagement, celui-ci la renvoya à ses jetées battues. Un drame sensationnel, dont elle fut la cause, mit aux prises deux hommes de lettres, et au cours d'un duel tapageur, le journaliste Dujarrier fut tué par Beauvallon. Superbe publicité pour lancer une artiste, un peu trop forte même, puisque l'héroïne de ce drame, menacée de la rigueur de la police, dut fuir Paris pendant quelque temps. Où aller? Bon, le monde est grand. Et elle commence la cavalcade à travers les capitales, munie comme seule viatique des quelques 1000 francs que lui avait légué le malheureux Dujarrier. Les lords sont à ses pieds à Londres et les grands-ducs à Pétersbourg. Mais elle est attirée par l'Allemagne, ce pays de petites cours archaïques où pullulaient alors Altesse royale et souverain d'opérette. Elle croit d'abord avoir trouvé son affaire avec le prince d'Orange, mais c'était une fausse joie et elle se rabat sur Henri de Reuss qui l'invite dans son palais. Faveur éphémère, il faut encore chercher ailleurs. On lui parle de Munich. Dans ce pays régnait un souverain bizarre, sourd comme un pot, de manière brusque, mais passionné pour les arts, et qui avait la prétention de faire de sa capitale une ville brillante comparable à celle de la Renaissance italienne. Louis Ier a 62 ans et la réputation d'être de mœurs patriarcales et austères. « Voilà mon affaire », déclare nettement Lola Montes au baron bavarois qui s'était chargé de l'introduire dans ce pays. Comment opéra-t-elle pour y réussir? Oh, d'une façon fort habile. Un beau matin, l'intendant des théâtres royaux, en faisant son rapport à son souverain, l'informa qu'on avait refusé à l'examen de la danse une certaine Lola Montes, qui prétendait entrer dans le corps de ballet, mais s'était montrée trop insuffisante. Furieuse de cette décision, ces danseuses demandaient audience au souverain. Louis Ier va envoyer au diable cette outrecuidante qui s'imagine qu'un roi de Bavière n'a pas mieux à faire qu'à écouter les doléances d'une ballerine. Mais l'intendant a le malheur de lui faire voir le portrait de la plaignante et aussitôt il se ravise. « Qu'elle entre !» ordonne-t-il. Lola Montes apparaît dans le cabinet royal et aussitôt son charme opère son miracle habituel. Louis Ier est conquis. Bien entendu, la danseuse entra à l'opéra où, pour masquer son insuffisance, le directeur fut obligé de lui faire danser des danses espagnoles durant les entr'actes. Mais, par compensation, elle reçoit chaque jour des visites de plus en plus longues du vieux roi qui cause avec elle d'art, de littérature et de voyage. Elle est intelligente et son esprit superficiel donne l'illusion au souverain qu'il est tombé sur un sujet vraiment supérieur. Aussi lui fait-il installer et meubler une maison dans la plus belle rue de la ville. L'aventure s'ébruite. Le clergé s'émeut de l'audace de cette favorite et fait au roi de timides observations que celui-ci reçoit fort mal. N'a-t-il pas le droit, à son âge, de causer art et littérature avec une femme intelligente ? La reine elle-même, malgré sa passivité habituelle, cesse un instant de s'occuper de ses petits-enfants pour essayer de tirer son vieux mari des griffes de cette aventurière. Elle lui envoie un de ses officiers, muni d'une traite de 2000 livres sterling qu'il devait lui remettre, à condition qu'elle quitte le pays. Lola jette froidement la traite au nez du gentilhomme et va conter l'histoire au roi, qui s'enflamme encore davantage devant cette preuve d'amour. Pour en récompenser son ami, il consent à lui accorder le titre de noblesse qu'elle lui demande depuis longtemps. Il ouvre devant elle un atlas, pique un nom au hasard, Lansfeld. « Comtesse de Lansfeld, dit-il à la danseuse, je vous salue, et c'est sous ce titre que vous serez bientôt présentée à ma cour, comme le fut la Montespan à la cour de Louis XIV. » Cette insolente faveur mit cette fois le feu aux poudres dans toute la Bavière. Les ministres préférèrent démissionner plutôt que de ratifier cette promotion scandaleuse. L'un d'eux vient même annoncer à son souverain, dans une entrevue dramatique, qu'il ne répond pas de ce qui peut arriver. Les étudiants sont indignés à la faculté et le peuple menace de se révolter. Louis Ier répond à cette philippique en lisant à son ministre le dernier sonnet qu'il vient d'écrire pour la comtesse ballerine. Ces débats homériques entre le roi et son pays défrayèrent la chronique scandaleuse de toute la presse européenne. Ce fut partout un immense éclat de rire. Quant au souverain, il ne prit pas davantage la chose au sérieux. Il avait confiance dans l'amour de son peuple. Ne l'avait-il pas comblé de ses bienfaits et gratifié d'une capitale splendide, digne de son histoire, hérissée de palais et de monuments? Aussi, loin de céder, il exagère encore ses folies avec la favorite et passe son temps dans le palais rempli d'œuvres d'art qu'il lui a données. Ses faveurs n'empêchaient nullement la turbulente Lola, qui, disait-elle, s'ennuie à mourir dans cette capitale de petits bourgeois, de la quitter souvent pour aller s'amuser dans les pays voisins. Ce fut ainsi qu'en 1847, elle eut une aventure sensationnelle à Spa, la ville d'eau alors si à la mode. Un jour, à la source, rendez-vous de toute l'aristocratie, elle entend un officier bavarois qui s'exprimait en termes méprisants sur la femme qui déshonorait son souverain et mettait en péril la couronne. Selon son habitude, Lola était ce jour-là habillée en homme et descendait de cheval. Elle alla droit à l'officier. « Connaissez-vous, lui demanda-t-elle, un brûle-pourpoint, cette dame dont vous parlez si légèrement ?»« Je n'ai jamais vu cette coquine, répondit brutalement l'officier. À ces mots, elle lui cingle le visage avec sa cravache. Attroupement, échange de cartes, Lola déclare s'appeler M. Galerio, et un duel est décidé pour le lendemain. Au cours de ce duel, la danseuse, toujours déguisée en homme, fut blessée au bras. On court chercher un médecin, mais elle refuse son secours. On insiste et on apprend que ce Galerio n'était autre que Lola Montes. Son adversaire prévenu accourt aussitôt et se confond en excuses d'avoir osé se battre avec une femme, mais pouvait-il se douter ? Très grande dame, la comtesse de Lansfeld lui tend sa main à baiser en lui disant « Je vous apprendrai bientôt à mieux connaître celle que vous attaquez si lâchement. » Une quinzaine plus tard, l'officier était nommé commandant. Pendant ce temps, la situation à Munich s'aggravait de jour en jour, entretenue d'ailleurs par l'Autriche qui se servait du prétexte de Lola Montes pour saper l'autorité royale en Bavière. Et puis, on était en 1848, époque d'effervescence générale et les émeutes devinrent bientôt une véritable révolution. Louis Ier donna alors le spectacle d'un homme capable à la fois des folies les plus coupables et du courage le plus héroïque. En pleine émeute de la rue exigeant son abdication, il sortit de son palais à pied, sans la moindre garde, et se rendit au domicile de la favorite, dont, aux yeux de la foule médusée, il ouvrit tranquillement la porte avec une clé qu'il tira de sa poche. Il est vrai que le lendemain, pour ne pas être en reste de bravade avec lui, Lola Montes montait à la Mexicaine sur un cheval fougueux, traversait la ville au galop, tandis qu'autour d'elle pleuvaient pommes cuites et trognons de choux. C'en était trop. Louis Ier fut mis en demeure d'abdiquer et Lola dut se sauver déguisée en jeune garçon. Le beau rêve était fini, et le vieux roi détrôné n'ayant plus pour elle aucun intérêt, la méchante femme l'abandonna froidement pour gagner l'Angleterre, où elle comptait continuer plus que jamais sa brillante carrière. Ses espoirs se seraient probablement réalisés si cette terrible impulsive n'avait été tentée une fois de plus par le mariage pour lequel, décidément, elle n'était pas faite. Son nouvel époux l'emmena à New York où il avait des intérêts. Dans ce pays puritain, encore à demi sauvage, les excentricités de la jeune Écossaise firent long feu et son époux lassé d'elle l'abandonna. Cette fois, c'était la fin de cette chance insolente qui, jusqu'alors, avait toujours souri à l'aventurière. L'Américain de cette époque était vertueux. Les femmes qui chevauchaient dans les rues ne l'étonnaient pas. Enfin, on en voulait à celle qui avait été cause de la chute d'un trône. Aucune des tentatives faites par la fosse espagnole pour remonter le courant ne réussit. On la siffla comme danseuse, et ce fut alors qu'elle eut l'idée baroque de se lancer dans les sciences occultes. Depuis ce moment, la brillante favorite, la comtesse de Lansfeld, dégringola rapidement. Ses bijoux vendus ou volés, elle connut la gêne et bientôt la misère. Enfin, durant un dur hiver, sans abri, sans bois pour se chauffer, elle prit une fluxion de poitrine et mourut sur un grabat, âgée de 41 ans à peine. Quelques femmes bienfaisantes se cotisèrent pour la faire enterrer et lui offrirent une tombe dans le cimetière de New York. Triste fin, certes, mais juste revanche d'une vie tout entière lancée comme un défi à toute morale et à toute raison. Ainsi s'achève Lola Montes, comtesse de Lansfeld, par Jules Chancel.